Merci Annie pour cette première partie, merci pour cette invitation avec les salutations de l'église d'Alkirch. Il restait un texte du jour dans les textes de, pour aujourd'hui, et ça tombe bien. C'est le texte sur lequel on voudrait méditer ensemble aujourd'hui. Est-ce que tu veux que je continue de blablater pendant que l'ordinateur se connecte?
Parfait.
Génial. Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et rejetteront votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez de joie, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur père agissait à l'égard des prophètes. Mais malheur à vous, les riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés maintenant, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes parleront bien de vous, car c'est ainsi que leur père agissait à l'égard des faux prophètes. Est-ce que vous avez reconnu le texte? Est-ce que c'est quelque chose qui vous dit quelque chose? Ouais, c'est
dans Matthieu.
Matthieu, ça nous rappelle en tout cas le début du sermon sur la montagne. Est-ce que vous avez senti un léger inconfort, une petite dissonance, un petit déséquilibre par rapport à ce que vous en connaissez pendant qu'on l'a lu? Il y a un petit peu, pas tout à fait comme on le connaît, ben, c'est normal, je vous rassure. C'est la version du sermon sur la montagne, mais celle non pas qui est rapportée dans Matthieu, qu'on a l'habitude de lire, mais celle qui est rapportée dans l'évangile de Luc. Et on la lit un peu moins souvent, d'où le sentiment de décalage, voire de surprise, qu'on peut avoir face à certains changements. Alors tout d'abord, quelques remarques d'introduction. Dans l'évangile de Luc, ce qui est le plus long livre du Nouveau Testament, a donc été écrit par quelqu'un qui s'appelle Luc, qui est médecin, qui n'a pas connu personnellement Jésus, mais qui était un des compagnons de Paul, et qui est revenu étudier les traces de la vie de Jésus en allant chercher des témoignages de première main. Il a fait un vrai travail d'historien. Il les a adressés, on le trouve au début de l'évangile de Luc, à un certain Théophile. Théophile, ça veut dire celui qui aime Dieu. Alors probablement, il ne s'agirait pas d'une seule personne appelée Théophile, mais plutôt à ceux qui aiment Dieu. Probablement des personnes qui seraient plutôt des personnes cultivées en dehors de la sphère juive. C'est aussi Luc qui a écrit les Actes des Apôtres. Et dans les thématiques sur lesquelles il met un accent, on retrouve l'universalité du message du Christ, un intérêt pour les méprisés de l'époque, c'est-à-dire les Samaritains, les femmes, les pauvres, les enfants, les impurs, et aussi un intérêt pour les questions économiques. Et puis il parle aussi beaucoup du salut, de l'importance du pardon de Dieu et de la conversion. Alors je vais utiliser pour m'aider à réfléchir, je vais utiliser le commentaire en anglais Luke de Marie Scherz, d'une édition qui n'est pas monnaie courante mais qui a une couleur un petit peu plus pacifiste et anabaptiste que d'autres commentaires qu'on peut trouver par ailleurs. Alors je rentre de vacances dans les Alpes suisses. Dans la neige, cette semaine, on a vu des écureuils, des chamois. On a vu les sommets tout roses le matin, quand le soleil se lève. On a pu admirer les sommets qui montent à 4000 mètres, tout proche. Alors la montagne, qui est, il faut le rappeler, un milieu rude et hostile, reste tout de même un endroit privilégié pour contempler les merveilles de la création. et pour passer du temps dans la présence de Dieu. Bibliquement, c'est une image qui est très utilisée. La montagne, c'est souvent le lieu où il y a des échanges entre Dieu et son peuple. Alors par contre, ma famille vous le confirmera sans trop de difficultés, moi je suis pas, alors à leur grande incompréhension, je suis pas une grande fan des pentes escarpées et des dénivelés, alors qu'ils soient positifs ou négatifs. Alors je vous avoue que parfois, l'idée d'abaisser les montagnes et de combler les vallées, vous savez la prophétie de Jean le Baptiste quand il annonce la venue du Christ, encore au début de l'évangile de Luc. Alors d'un point de vue très personnel, à quelque part ça m'arrangerait un peu. Dans ce même sens d'ailleurs, l'idée d'abaisser les collines et de combler les vallées, ça a plutôt aussi beaucoup d'attrait pour les premiers chrétiens qui ont entendu l'évangile. Au temps de Jésus, les montagnes et les vallées, bien que splendides, ne rendaient pas la vie facile aux fermiers et aux voyageurs du 1er siècle en Palestine. Pour Jésus, pour Luc, le concept de Dieu qui aplanit les montagnes et qui comble les vallées avait une vraie force poétique et théologique. L'idée de Luc de placer le discours de Jésus dans un endroit plat, on va le voir juste après, ça rappelle cette histoire de remettre les choses à plat, de combler les vallées, d'abaisser les montagnes, et donc ça remplit aussi à quelque part une prophétie. Dans le passage qu'on étudie ce matin, Jésus va approfondir son enseignement et présenter de façon plus définitive le plan de Dieu. Et je me suis perdue, pardon. Le plan de Dieu pour le monde. Ce qu'on appelle son discours sur la plaine, pour le différencier un peu du sermon sur la montagne, va rassembler des thèmes majeurs de son ministère, notamment le renversement des valeurs du royaume de Dieu, l'appel radical à aimer ses ennemis, et puis comment être disciple de façon sage et consciente. Beaucoup d'entre nous connaissent la version de l'évangile de Matthieu et nous l'avons parfois en tête, mais il est aussi important de lire la version de Luc pour elle-même. Il y a des ressemblances et aussi de grandes différences entre ce qu'on appelle le discours sur la plaine, dont on étudie un peu le début ce matin, et puis le fameux sermon sur la montagne de Matthieu. Les différences commencent avec donc le lieu choisi par Jésus pour enseigner. En fait, dans Matthieu, l'idée de la montagne rappelle Moïse qui amène la loi. Quand Jésus fait son discours sur la montagne, il est celui qui amène ou qui interprète d'une nouvelle façon la loi. Par contraste, le discours sur la plaine dans l'évangile de Luc va mettre l'accent sur cette action de nivellement de Dieu dans le monde. Et ça nous rappelle aussi les paroles du Magnificat que Marie avait prononcées dans sa louange quand sa grossesse lui a été annoncée. Et je lis juste deux versets dans le Magnificat où les plus vulnérables sont exaltés et les puissants abaissés. Ça fait partie du renversement des valeurs aussi. Et Marie, dans sa louange, elle dit: le Dieu Tout-Puissant est intervenu de toute sa puissance et il a dispersé les hommes dont le cœur était rempli d'orgueil. Il a précipité les puissants de leur trône, il a élevé les humbles, il a comblé de bien ceux qui sont affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. Ça rappelle aussi la prophétie de Jean dans le désert dont on a parlé tout à l'heure, où les montagnes sont abaissées et les vallées comblées. Ça anticipe aussi la parabole de Lazare et de l'homme riche, où les places se renversent après la mort, et aussi l'image de la pauvre veuve qui donne tout son nécessaire, où le petit don d'une personne pauvre est reconnu comme le plus grand. L'enseignement central de Jésus, décrit par Luc, va donc avec cette vision de Jésus comme grand niveleur, celui qui fait justice, et le renversement des valeurs. C'est tout ce qui est perceptible tout au long, si on y fait attention, de l'évangile de Luc. Je lis les deux premiers versets de notre passage. Jésus descendit avec eux et s'arrêta en un endroit plat où se trouvait un grand nombre de ses disciples. Il y avait là une foule nombreuse, des personnes de toute la Judée, de Jérusalem et des villes de la côte, Tyre et Sidon. Elles étaient venues pour l'entendre et pour se faire guérir de leur maladie. Celles que tourmentaient des esprits impurs étaient guéries. Tout le monde cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Avant ce passage, Jésus a établi son autorité en tant que maître de la Torah et il vient juste de choisir ses disciples. Et là, Jésus se lance dans sa grande mission d'enseignement sur ce qu'est le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Ici, donc dans ce qu'on appelle le discours sur la plaine, parce qu'il est dans un endroit plat, Jésus enseigne soigneusement ses disciples, et derrière ses disciples, la foule, composée de plusieurs types de personnes, sur ce que ça représente être un disciple dans de multiples façons. Luc va décrire avec soin la foule qui est attirée par Jésus, Jésus qui est vu comme celui qui a le pouvoir de guérir les infirmités, les souffrances morales, les anxiétés spirituelles. Les personnes qui sont là, ce ne sont pas juste des curieux ou des passants. Les personnes qui sont autour de Jésus à ce moment-là sont des personnes qui ont des grands besoins, qui perçoivent Jésus comme un homme qui peut les aider. Ce n'est pas une foule hostile, ça vient plus tard. Et puis au verset 19, on fait clairement référence au charisme de Jésus, cette foule qui était désireuse de l'entendre, mais surtout de le toucher pour pouvoir être guérie. Par rapport à Matthieu, le discours de Luc se concentre plus sur les questions éthiques qui étaient plus compréhensibles, accessibles pour des non-juifs et des juifs. La version rapportée par Luc de ce discours-là est plus courte, plus directe que la version de Matthieu. Elle est séparée en trois grandes parties. La première partie va du verset 20 au verset 26. C'est celle qui nous intéresse aujourd'hui. C'est les béatitudes, les bénédictions et les malédictions. Il y en a quatre chacune. Et puis après, il y a encore deux autres parties. Une partie qui parle du comportement et de l'attitude attendue pour tous ceux qui se disent disciples du Christ. Et un accent sur l'amour pour les ennemis et ne pas juger autrui. Et puis, il y a encore une conclusion avec un appel à l'action. Pour nous aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur ces béatitudes, et ces bénédictions et ces malédictions. Je les relis. Alors Jésus, regardant ses disciples, dit « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu vous appartient. Heureux êtes-vous, vous qui maintenant avez faim, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui maintenant pleurez, car vous rirez. Heureux serez-vous quand les hommes vous haïront, vous rejetteront, vous insulteront, vous chasseront en vous accusant de toutes sortes de maux à cause du Fils de l'homme. Quand cela arrivera, réjouissez-vous et sautez de joie, car une magnifique récompense vous attend dans le ciel. En effet, c'est bien de la même manière que leurs ancêtres ont traité les prophètes. Mais malheur à vous qui possédez des richesses, car vous avez déjà reçu toute la consolation que vous pouvez attendre. Malheur à vous qui maintenant avez tout à satiété, car vous aurez faim. Malheur à vous qui maintenant riez, car vous connaîtrez le deuil et les larmes. Malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous, car c'est de la même manière que leurs ancêtres ont traité les faux prophètes. Alors encore une fois, il est très difficile de lire les béatitudes de Luc sans les comparer à celles de Matthieu. Les deux discours partagent des ressemblances évidentes et puis des différences aussi significatives. Notamment les deux discours, au niveau des ressemblances, vont inclure des références explicites aux prophètes. La manière dont Luc rapporte les bénédictions et les malédictions évoque non seulement ceux du Deutéronome, donc de la loi qui a été donnée, mais aussi globalement les paroles des prophètes de l'Ancien Testament. La principale différence entre les deux évangiles, c'est que Matthieu va souligner la disposition de cœur, la disposition d'esprit, là où Luc va souligner la place dans la société. Heureux les pauvres. C'est d'ailleurs un vrai défi de le comprendre comme cela. Nous, en tant que faisant partie de l'Église mondiale, comment faisons-nous? Pas seulement pour moi-même, mais pour notre Église. Pour notre Église en France. C'est déjà extrêmement exigeant d'être dans une suivance attentive de Matthieu, les chapitres 5 à 7, le sermon sur la montagne. Comment est-ce qu'on se positionne quand on lit la version de Luc au chapitre 6? Alors, la structure des bénédictions et des malédictions est assez intéressante. Même avec cette simple lecture, peut-être que vous avez remarqué que c'est le côté positif, le côté bénédiction des phrases qui est celui que l'on retient le plus, qui prend le plus de place dans la lecture. Les trois premières phrases, qui sont en couleur, sont relativement équilibrées et se répondent les unes aux autres. La jaune à la jaune, la verte à la verte, la bleue à la bleue. Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume des dieux vous appartient. Malheur à vous qui possédez des richesses, car vous avez déjà reçu toute la consolation que vous pouvez attendre. Et ça se répond de l'une à l'autre. Les pauvres et leurs récompenses sont équilibrées face aux riches, et leurs récompenses, etc. Remarquez ce qui arrive dans la quatrième bénédiction qui parle des relations humaines. Plus spécifiquement, des relations humaines dégradées à cause du Fils de l'homme. Trois comportements sont évoqués dans cette bénédiction, la haine, le rejet, l'insulte, le fait de dire du mal de quelqu'un. Et si une seule de ces actions est tenue à l'encontre d'un croyant, il y a trois résultats pour ce croyant. Une raison de se réjouir et de sauter de joie, une récompense dans le ciel et un parallèle avec les prophètes qui est établi. La malédiction correspondante est finalement un simple rappel, un simple avertissement de se méfier quand on dit du bien de soi. C'est le signe d'être un faux prophète. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Mais bien que les bénédictions et les malheurs de Luc soient équitables et parallèles, l'accent est toujours mis sur la première moitié, celle des bénédictions. Le Jésus de Luc est plus attentif à ce qui arrive aux plus vulnérables qu'à ce qui arrive à ceux qui appartiennent aux classes les plus aisées. Même si probablement, parmi les premiers lecteurs et auditeurs de Luc, il y avait sans doute à la fois des pauvres et à la fois des riches. Une des premières différences qu'on remarque quand on lit Luc 6, on remarque que Luc ne spiritualise pas d'emblée les béatitudes. Matthieu va dire « heureux les pauvres en esprit ». Luc dit « heureux les pauvres ». Même s'il est aussi très clair qu'il y a une dimension métaphorique, théologique, là-bas derrière, pour Luc, les pauvres, c'est d'abord une catégorie sociale et économique bien distincte. Je rappelle encore une fois l'idée du Magnificat de Marie, ou encore l'histoire de Lazare et de l'homme riche. La question des plus vulnérables en tant que catégorie de la population, c'est une thématique importante dans le livre de Luc. Quand Luc parle du concept des affamés, de ceux qui ont faim, il pense à tous les sens du mot, du besoin physique, du besoin économique, du besoin social, du besoin spirituel. Alors cette faim spirituelle est peut-être tout de même pour Luc la plus grande faim de toutes, c'est-à-dire celle de ne pas savoir ou de ne pas reconnaître combien on a besoin de Dieu. J'en profite ici pour nous interpeller dans une petite digression. Je crois qu'il faut s'arrêter un instant sur cette idée de heureux les pauvres, malheur aux riches. Les commentaires sont assez nombreux à souligner le double sens, l'idée de spiritualiser le fait d'être pauvre, d'être riche. Et si je vous pose la question à vous assez directement, où est-ce que vous vous placez? Plutôt pauvre? Plutôt riche?
Oui.
Moi, je trouve assez naturel de se placer du côté de heureux les pauvres. Alors déjà parce que c'est heureux, c'est mieux. Je pense pas qu'aucun de nous soit assez fortuné au point de se déclarer riche dans notre contexte actuel de récession. Comme la majorité des personnes autour de nous, on fait probablement tous des efforts pour boucler nos fins de mois. Mais si on prend un peu de recul et qu'on regarde dans un contexte un peu plus global, au regard du monde, tu as un toit sur ta tête, tu as 3 repas par jour ou le ventre plein ou l'assurance d'un bon repas très prochainement, tu as une sécurité sociale qui t'assure une certaine protection contre les aléas de la vie. Alors annonce, tu fais partie des personnes les plus riches de la Terre. Malheur aux riches. Prenons ça aussi un peu pour nous. Nous qui comptons sur une certaine sécurité, sur un certain confort que nous apporte notre richesse, tout aussi relative qu'elle soit, nous qui, de fait, ne nous appuyons pas sur Dieu pour ces choses-là, nos richesses sont souvent pointées comme un facteur qui rend difficile la relation avec Dieu dans les évangiles. Et je crois qu'il ne faut pas être trop rapide à spiritualiser le concept de faim et de pauvreté, mais essayer de se regarder aussi avec justesse dans le miroir pour ne pas passer à côté d'un enseignement fondamental de Jésus. Pour approfondir la question de la place de la richesse, de la place de la pauvreté, et puis pour approfondir aussi d'autres questions qui ont été abordées ce matin, je vous invite à écouter ou à réécouter le podcast de Bible Tunes sur l'épître de Jacques, qui est un podcast qui est produit par le Binnenberg et par Marie-Noëlle Yoderge notamment. Si vous avez des difficultés à le trouver, vous pouvez nous demander à nous, sinon papa essaie de le retrouver aussi. Petite précision encore, pas forcément facile à faire au niveau de la nuance. Jésus ne fait pas une déclaration universelle. Il ne dit pas qu'il y a plus de bonheur dans la pauvreté que dans l'aisance. Il va parler à ses disciples, donc des personnes qui ont tout quitté pour le suivre. Il va dire qu'ils sont pauvres, c'est-à-dire petits, malades, méprisés, et heureux au creux de leur pauvreté, de leur faim, de leur privation et de leurs larmes. Les pauvres ne sont pas déclarés heureux parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils sont meilleurs que les autres. La pauvreté n'est pas exaltée en elle-même, mais parce que Dieu veut faire de son règne une manifestation de sa justice et de son amour pour ceux qui sont dans la détresse. Dans son livre assez récent, Frédéric de Coninck, dans ses Béatitudes au quotidien, fait lui aussi la différence entre les pauvres et les misérables qui vivent dans de telles difficultés que toutes leurs capacités sont mobilisées pour la survie de leur famille. La pauvreté, surtout la misère, n'est pas forcément un idéal à atteindre. Mais je le répète, la richesse, dont la nôtre, toute relative soit-elle, est décrite comme un des premiers obstacles pour rejoindre le royaume des cieux. Alors je reviens à notre passage. Si on peut dire que dans le premier couple, heureux les pauvres, malheureux les riches, on a plusieurs sens, alors on peut dire que ces deux couples suivants, ceux qui ont faim, ceux qui sont rassasiés, ceux qui pleurent, ceux qui rient, peuvent aussi avoir plusieurs sens, du plus concret au plus spirituel. Il y a des moments de tristesse réelle dans l'évangile de Luc, de la joie réelle, à la fois présente et future. Jésus lui-même se lamente, gémit sur Jérusalem. Marie et Élisabeth sont dans la joie, dans l'attente des deux naissances de Jean et de Jésus. Et puis, Zachée va rendre la justice, car il a un cœur plein de joie. Les lamentations et les joies sont des valeurs que l'on trouve dans le royaume de Dieu, des valeurs pleinement présentes et réaffirmées dans l'évangile de Luc. Dans ce sens, les émotions du royaume de Dieu deviennent un indicateur des valeurs du royaume de Dieu, un commentaire sur l'état du royaume de Dieu. Apprenons à accepter que la vie chrétienne n'est pas une victoire du début à la fin, que Dieu voit de la valeur dans nos larmes et dans nos lamentations, aussi bien que dans nos rires et dans nos célébrations. Qu'il peut y avoir une part de lamentation dans nos célébrations, que ce soit nos célébrations personnelles et aussi en communauté, lors des cultes. J'arrive doucement à la fin. La dernière partie des bénédictions et des malédictions, celles qui sont en gris, à cause de leur position en dernier dans l'arrangement du texte et de l'espace qu'elles prennent, va résumer l'entièreté finalement de ces bénédictions et de ces malédictions. Sans surprise, à la lumière de l'accent que met Luc sur le renversement des valeurs au sein du royaume de Dieu, cette béatitude va nous parler de la façon dont les autres nous approuvent ou nous désapprouvent. Ceux qui aiment la popularité auprès de leur père courent le risque d'être de faux prophètes. Ceux qui sont haïs et persécutés pour les valeurs du royaume de Dieu sont au contraire de vrais prophètes. Dans les valeurs retournées, dans les valeurs inversées du royaume de Dieu, il n'y a pas d'honneur plus grand. On se rappelle plus volontiers l'idée de faire du bien, et en nous voyant, les autres diront du bien, mais le verset qui se trouve dans Pierre ne va pas à l'encontre de Luc. Je lis dans 1 Pierre 2, verset 12. « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Je crois que ça nous rappelle d'être humbles entre nous, humbles avec les autres aussi, ce qui n'est pas forcément un but facile à atteindre. C'est aussi un rappel de ce que ça signifie être aux marges de la société, peut-être là où doit être l'Église, pour tenir son rôle de prophète dans la société, y compris en pleurant. Je vais terminer là pour ce matin, en espérant vous laisser quelque chose à méditer sur ce texte. Si vous êtes intéressé par une explication de la suite du texte de Luc 6, Sophie va travailler sur la suite pour apporter une prédication à Ensisheim la semaine prochaine. Si vous êtes intéressé, avec son autorisation, je le dis avec son autorisation, elle pourra éventuellement vous transmettre son travail par écrit. Et pour conclure pour de vrai, je vous propose de prier ensemble la prière enseignée par Jésus, avec une attention particulière sur les paroles prononcées, non pas comme une litanie bien connue, mais comme une vraie prière adressée au Père, ensemble et en Église. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.